La collectivité, budget toujours contraint dans le contexte post-crise insurrectionnelle, mais l'institution veut maintenir les investissements. L'appel du 18 juin, des commémorations se déroulaient ce matin à Nouméa, à la Croix-de-Lorraine, 85 ans après la diffusion du message du général de Gaulle depuis Londres. La province sud et le haut-commissaire poursuivent toutefois leurs efforts pour favoriser l'insertion professionnelle. Sonia Baquès et Jacques Billon étaient en visite aujourd'hui dans une entreprise de Ducos. Dans le Pacifique, réaction du gouvernement néo-zélandais. Alors que trois pays figurent sur la liste de l'administration Trump, leurs ressortissants ne peuvent plus se rendre librement aux États-Unis. Au centre Cibaou, une formation sur le travail du bambou. L'initiative était proposée par le consulat général d'Indonésie à Nouméa. Et le sport de la voile, la New Caledonia Groupama Race continue dans des conditions musclées. Un équipage attendu à Nouméa ce soir, les Néo-Zélandais de V5 qui devraient être les premiers à franchir la ligne d'arrivée. Bonsoir et soyez les bienvenus dans InfoSoir pour tout savoir de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique. Compte administratif et budget supplémentaire au menu de l'Assemblée de la province sud qui se réunit demain matin. Un exercice difficile dans un contexte encore fortement marqué par les violences insurrectionnelles de mai 2024. Elisabeth Noir.
Si la province sud n'avait pas été bien gérée depuis 2019, elle serait aujourd'hui en faillite. C'est ce qu'affirme d'emblée Sonia Baquès en présentant l'état des lieux. Cette gestion rigoureuse se traduit, explique-t-elle, par une maîtrise des dépenses de fonctionnement, ce qui a permis de faire face à la baisse de 28% des recettes fiscales à laquelle la province a été confrontée depuis les émeutes. La province sud a ainsi pu prélever dans son fonds de roulement pour amortir une partie des décisions qui s'imposaient après l'effondrement catastrophique de l'économie calédonienne. Elle a aussi eu recours à l'emprunt avec un taux d'endettement qui atteint aujourd'hui 54%. Ce bilan sera fait demain à l'occasion de l'examen du compte administratif 2024, explique la présidente de la province sud.
Demain va passer le compte administratif de la province sud, c'est-à-dire le bilan de l'année dernière. Ce qui est prouvé par ce bilan, c'est que la bonne gestion de la province a permis d'absorber la crise, évidemment avec les aides de l'État. Mais concrètement, on a fait beaucoup d'économies de dépenses publiques, 200 postes en moins, beaucoup de dépenses de fonctionnement qui ont été supprimées et qui nous permet de maintenir le niveau d'investissement. Et c'est ça qui est important en ce moment au niveau économique, c'est qu'on puisse continuer à investir, que les sociétés de BTP continuent à avoir des travaux, qu'on puisse continuer à faire travailler les entreprises calédoniennes.
Et c'est sur cette base qu'a été préparé le projet de budget supplémentaire de la province avec une augmentation de recettes de 6%, soit 3,154 milliards de francs. Une augmentation due également à des ajustements des dotations et des participations de l'État et de la Nouvelle-Calédonie. Le budget supplémentaire prévoit de maintenir un niveau d'investissement élevé avec 2,455 milliards en crédits d'investissement. Le problème, c'est l'incertitude sur le versement du prêt de l'État qui est subordonné aux réformes.
La difficulté qui arrive, c'est qu'en fait, le prêt de l'État qui est prévu a deux tranches, une première tranche qui a été versée et une deuxième qui doit être versée en fonction d'un certain nombre de réformes. Concrètement, si ces réformes n'ont pas lieu, cette deuxième tranche ne sera pas versée et c'est l'effondrement des collectivités qui ne sont pas capables d'absorber la baisse de recettes telle qu'elle est prévue, puisqu'en fait, ce qui est prévu par l'État, c'est une aide sur 3 ans. Et si cette aide, elle n'a été versée que sur la première tranche, concrètement, les collectivités ne peuvent pas s'en sortir jusqu'à la fin de l'année.
Le calendrier de réforme était fixé initialement au 30 juin. Le président du gouvernement, Alcide Ponga, a obtenu un délai supplémentaire d'un mois. Mais dans le contexte actuel et faute de majorité au Congrès, il semble difficile que les réformes attendues par l'État puissent être votées avant le 31 juillet. J'ajoute qu'outre l'approbation du compte administratif 2024 et le budget supplémentaire 2025, les élus procéderont également demain à la dénomination du collège de Magenta. Il s'appellera désormais collège Jean Lec et du collège des Portes de Fer qui va devenir le collège François Oliveau. La province doit également réglementer les inscriptions dans les écoles primaires publiques de la province sud.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
L'appel du général de Gaulle sur les ondes de la BBC à Londres, c'était le 18 juin 1940, il y a 85 ans. Une cérémonie se tenait ce matin à la Croix-de-Lorraine, à Nouméa. Une journée pour se rappeler des Français qui ont refusé la défaite en 1940. Une date anniversaire qui est devenue symbole d'espérance, pouvait-on entendre dans le discours du ministre des Armées lu par le haut-commissaire Jacques Billon, le haut-commissaire qui tenait à être présent à cette cérémonie.
C'est un moment important, nous le savons tous, dans notre histoire contemporaine, un moment fondateur pour la France. Et j'ai pu le rappeler dans le message du ministre des Armées, le 18 juin n'est plus seulement une date, il est devenu un nom qui ne désigne aujourd'hui qu'une seule chose, à savoir l'espérance. Et c'est vrai que cet appel du 18 juin, finalement, trace un chemin rude, solitaire, et c'est celui de la liberté reconquise. Il était important aujourd'hui de se rassembler autour de ces valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité fondatrices de notre nation. Donc un moment très émouvant.
Dans le rang protocolaire, on pouvait retrouver des représentants de la mairie de Nouméa, du Congrès, mais aussi le député de la première circonscription, Nicolas Metzdorf, la présidente de la province sud, Sonia Baquès, ou encore la membre du gouvernement, Isabelle Champmoreau. Des gerbes ont été déposées par les autorités civiles et militaires, mais aussi par Yoris Mousset, 18 ans. Il est élève de la classe défense au lycée La Pérouse.
Je pense que c'est important, justement, pour pas qu'on oublie. Parce que ça a forcément eu un impact. Et je veux dire, tout le monde y a participé. Donc c'est bien de continuer à montrer cette mémoire à tous. Je suis venu personnellement parce que ça m'intéressait. Et voilà, pour voir comment ça se passait réellement. C'était assez impressionnant à voir. Franchement, très manœuvré. Tout était fait à la minute. Donc ouais, c'était super intéressant à observer.
Un hommage aux combattants français libres calédoniens Jacques Lucien et Henri Nesline a été rendu durant cette commémoration par le délégué de la Fondation de la France Libre. Notez que des dépôts de gerbes étaient également organisés aujourd'hui à Coumac et à Pointe-Bout.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, 85 ans après, est-il toujours important, selon vous, de commémorer l'appel du 18 juin du général de Gaulle? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 67% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que les États-Unis doivent s'engager militairement dans la guerre contre l'Iran. Ils sont 33% à être d'un avis contraire. Vos rendez-vous sur l'antenne d'RRB. Samedi, ce sera la fête de la musique. Elle existe depuis 1982 et elle est relayée chaque année sur le territoire. Que représente cette fête? Nous en parlerons demain avec notre invitée du matin à 7h30 qui sera la directrice du Conservatoire de musique et de danse de Nouvelle-Calédonie. L'occasion de faire le point sur le fonctionnement du conservatoire et sur les événements à venir qu'il prépare. Vos rendez-vous d'antenne à l'occasion de la Groupama Race, nous nous intéresserons demain midi dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu à l'économie du nautisme et de la plaisance. A-t-il lui aussi subi le contre-coup des émeutes? Nous en parlerons avec Sébastien Feldman, directeur Sonebo, Frédéric Mignard du CNC et Christophe Besson, directeur de Marine Corail. La province sud a organisé cet après-midi la visite d'un atelier d'insertion à la direction de l'emploi et du logement, Jean-François Baudin.
Une initiative menée avec l'État dans le cadre du contrat de développement 2024-2027. Il s'agissait de montrer concrètement les actions engagées pour accompagner les demandeurs d'emploi. Un enjeu d'autant plus fort depuis les émeutes de mai 2024. Le haut-commissaire de la République, Jacques Billan, présent lors de cette visite, salue les résultats obtenus.
Ce nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 10% de mai 2024 à mai 2025. Donc je voulais voir cette direction de l'emploi et du logement qui est dirigée par des fonctionnaires vraiment très engagés dans leur mission. On a pu le constater lors des ateliers avec, et j'en suis très heureux, des résultats très positifs et en tout cas un reçu de la part de toutes les personnes qui sont suivies, un retour très positif et une vraie reconnaissance par rapport à l'accompagnement qui est mis en place. Ça représente, on le voyait, 271 millions de francs qui sont consacrés à ce volet insertion, retour à l'emploi, chantier d'insertion. Ce sont des millions d'euros qui permettent surtout de mettre en place des actions concrètes et de changer la vie des Calédoniens.
Un constat partagé par Sonia Baquès, la présidente de l'Assemblée de la province sud, qui souligne l'importance qu'il y a à adapter les formations aux nouveaux profils des demandeurs.
On a réorienté un certain nombre de crédits pour s'adapter à ce qui s'est passé pendant la crise, c'est-à-dire qu'on avait un public qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir, de gens qui ont parfois travaillé 20 ans dans la même entreprise, qui n'étaient pas des habitués de la recherche d'emploi, qu'il faut traiter, accompagner pour une réinsertion réussie. On voit aussi que les entreprises ont une difficulté à faire confiance dans le recrutement et on a des dispositifs qui permettent finalement de faire rentrer les demandeurs d'emploi en les accompagnant avec des financements, de manière à ce qu'ils n'aient pas à prendre eux tous les risques. C'est effectivement entre 700 et 800 personnes qui sont traitées, donc c'est pas la totalité des demandeurs d'emploi, mais comme c'est un traitement individuel, très humanisé, finalement on a un taux de réussite très important, 92%, parce que on accompagne chacune des personnes avec la réponse qui correspond à sa problématique.
Charles est l'un des bénéficiaires de ce dispositif. Il a perdu son travail à la suite des émeutes. Il revient sur son parcours et les outils qu'il a acquis lors de cette formation d'un mois à la direction de l'emploi et du logement.
J'ai eu un licenciement économique sur mine, qui fait que après j'ai été obligé de m'orienter sur d'autres projets professionnels sur Nouméa. Et à travers cette équipe Envie, qui m'a apporté beaucoup de soutien, ça m'a permis d'essayer de m'orienter, de faire mes recherches métiers sur d'autres projets professionnels sur Nouméa. Quoi. Tout ce qui est communication, tout ce qui est apprendre à refaire un CV, tout ce qui est apprendre à faire une lettre de motivation, et puis surtout refaire confiance à l'employeur. Puisque maintenant, avec ce qui s'est passé, on a perdu la confiance des gens, qui fait qu'on essaie de se réapprendre à se faire confiance surtout.
Cette visite marque la fin du premier dispositif de réorientation professionnelle lancé cette année. 7 autres sessions sont prévues d'ici décembre.
En bref, à Nouméa, 4 mineurs interpellés par la police en plein cambriolage. Les faits se sont déroulés hier vers 17h. Une habitation du 6e kilomètre était en train d'être visitée lorsqu'une brigade spécialisée de terrain est intervenue. Les 4 jeunes âgés de 14 à 16 ans sont actuellement en garde à vue. Ils seront présentés à un tribunal pour mineurs pour vol avec effraction. Une enquête est en cours.
Radio Rythme Bleu. Les bonnes fréquences. À Bouraille, c'est le 99.
Du rififi à Bouraille, où certains réclament la tête du président du comité de foire, Livaillroy. La foire de Bouraille n'avait pas pu être organisée en 2024 et elle est prévue cette année les 15, 16 et 17 août. Mais vendredi dernier, une réunion d'organisation a été troublée par des coutumiers qui sont venus réclamer la démission du président. Une polémique sur fond de descente du drapeau kanak lors de la cérémonie du 8 mai. Le récit de Livaillroy, le président du comité de foire de Bouraille.
À 5 minutes avant la fin de cette réunion, nous étions 4 avec des membres de mon association ainsi que des directeurs. On entend brusquement des coups de poing dans les portes, des coups de pied dans les portes. Et là, une vingtaine de personnes rentrent à l'intérieur de la salle du conseil municipal et vient me menacer direct par rapport à la descente du drapeau de la commémoration qui a eu lieu le 8 mai. Sachant que c'est le Haut-Fer qui a pris la décision de descendre ce drapeau, je ne vois pas pourquoi la foire de Bouraille vient à l'intérieur, parce qu'après, ces gens-là me menacent directement en me disant « Tant que tu seras président de cette foire, il n'y aura pas de foire cette année. » Donc, encore une politique de la violence, un silence du maire à côté, sachant qu'une heure avant cette réunion, organisée depuis très longtemps, on avait fait 2-3 semaines de ça, on avait demandé rendez-vous, une heure avant la réunion, on nous demande de changer de salle, sachant qu'on était vite, quand on rentrait très bien dans une petite salle, ils nous mettent dans la grande salle du conseil municipal. Donc là, je m'interroge un petit peu sur l'organisation de cette réunion-là. Et derrière, moi, il est hors de question que je cède à cette violence, encore une fois, où on essaye d'apaiser, sachant que la foire de Bouraille, c'est un endroit où on se rassemble, on fait des efforts, on s'adapte, on essaie d'amener quelque chose, un nouveau souffle pour les gens, parce que les gens en ont besoin. Mais cette foire, elle est attendue. Je répète, c'est 680 millions de retombées pour le pays. Elle est importante, notamment par les gens qui ont perdu leur emploi. Aujourd'hui, qui sont revenus à la terre, ils ont besoin d'écouler leurs produits. Avec les chambres consulaires, on fait un gros travail dessus. Les provinces et derrière, on sent encore une espèce de méchanceté où on mélange un petit peu tout court.
Livaillroy qui affirme sa détermination à ne pas se laisser intimider et à conserver la présidence du comité de foire de Bouraille. Joint au téléphone, le maire de Bouraille, Patrick Roblin, affirme qu'il n'avait pas convié les coutumiers du district qui ont fait irruption à la fin de cette réunion. Il affirme avoir déclaré face au comité d'organisation qu'il ferait le nécessaire pour que la foire se passe avec les personnes qui sont là autour de la table, c'est-à-dire le président, le vice-président et les membres du comité qui étaient présents. 17h passées de 58 minutes, une page de publicité dans ce journal avant d'évoquer les réactions régionales après l'annonce de l'administration Trump qui veut imposer des restrictions d'entrée aux États-Unis pour les Tongiens, les Vanuatais et les ressortissants des Tuvalu.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'église du Vœu, 30 51 30.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite du journal, Michael Gineski.
L'actualité dans la région Pacifique. Après l'annonce de l'administration américaine qui veut imposer des restrictions de voyage aux ressortissants de 36 nations supplémentaires, ce qui fait réagir le ministre des Affaires étrangères néo-zélandais. 3 pays de la région figurent en effet sur cette liste. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Les Tonga, le Tuvalu et le Vanuatu figureraient sur cette nouvelle liste supplémentaire, ce qui a incité Winston Peters à déclarer que, je le cite, nous avons le droit de décider en Nouvelle-Zélande qui peut entrer dans notre pays. La Chine aussi, l'Australie aussi et les États-Unis aussi, a-t-il ajouté. Le Tuvalu et le Vanuatu vendent des passeports, a-t-il précisé, et vous voyez comment une décision innocente prise à Funafuti ou à Port Vila peut susciter des inquiétudes aux USA en matière de sécurité. De tels programmes ont la capacité de préoccuper l'administration américaine, a-t-il insisté. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Retour en Calédonie avec la disparition d'Amazio Tautou, 7e adjoint à la mairie de Dimbéa et membre également du service de la jeunesse et des sports à la province sud. Il pilotait notamment le programme jeunesse et développement durable pour la province. La municipalité de Dimbéa lui rend aujourd'hui hommage. Je cite, il s'est pleinement investi dans ses mandats, notamment dans les secteurs de la jeunesse, de l'environnement et du développement durable, des domaines dans lesquels il s'est également largement impliqué dans sa vie professionnelle en tant qu'agent de la fonction publique calédonienne. Son engagement sans faille pour la ville de Dimbéa, sa bienveillance et son sens du service public ont marqué l'équipe municipale et l'ensemble de la collectivité. Fin de citation. Amazio Tautou s'est éteint hier à l'âge de 65 ans des suites d'une longue maladie. En l'absence d'Alcide Ponga, en déplacement à Paris, c'est Thierry Santa qui a présidé ce matin la réunion hebdomadaire du gouvernement. 8 projets de délibération et 19 arrêtés ont été adoptés, Jean-François Baudin.
Il a d'abord été question de la création d'un dispositif d'aide à la continuité pays pour faciliter les déplacements des résidents des îles Loyauté, de l'île des Pins et de Bélep par voie aérienne et maritime. Le projet de délibération adopté vise à simplifier et ajuster ce dispositif en révisant notamment le quota des billets aidés par bénéficiaire et en renforçant les justificatifs de résidence permanente. Pour le reste, une grande part de cette réunion a été consacrée aux questions budgétaires puisque les membres du gouvernement ont approuvé le compte administratif et le compte de gestion de l'exercice 2024, que ce soit pour le budget propre ou les budgets annexes de reversement et de répartition de la Nouvelle-Calédonie. Au final, fin 2024, le budget propre fait apparaître un résultat excédentaire annuel en fonctionnement de près d'1,4 milliard et de 843 millions en investissement. Le budget de reversement affiche lui un résultat global cumulé de 6,2 milliards et celui de répartition un peu plus de 14 milliards. Ces comptes devront être maintenant soumis à l'examen des élus du Congrès.
En bref, la Fédération calédonienne du BTP s'émeut dans un communiqué de la décision d'un opérateur pétrolier qui a fait le choix d'importer une structure modulaire de Chine pour reconstruire une station-service. Une solution inacceptable dans un contexte aussi critique pour l'économie locale, écrit la FCBTP, qui ajoute que les entreprises du secteur disposent des compétences, de l'expertise et de la réactivité nécessaires pour répondre aux besoins de reconstruction. La FCBTP appelle les donneurs d'ordre, publics ou privés, à s'engager en faveur du tissu économique local. En bref encore, l'ISEE publie sa dernière étude sur le BT21. L'indice est l'index du BTP. Il diminue de 0,3%. Il s'agit de sa première diminution mensuelle depuis le début de l'année, selon l'ISEE. Cette variation s'explique principalement par une diminution de 4,7% de l'indice gazole. D'autres indices contribuent également à la baisse, notamment indice matériel, l'indice matériel électrique et les câbles électriques. Sur les 12 derniers mois, le BT21 diminue de 1,2% d'après l'Institut de la statistique et des études économiques.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
Comment lutter contre les maladies non transmissibles? La communauté du Pacifique organise cette semaine une formation de jeunes ambassadeurs. Originaires de 6 pays et territoires de la région, ils apprennent à mener à bien un projet de lutte contre les MNT, maladies non transmissibles, qu'ils mettront en œuvre au sein de leur communauté. Charlotte Coulson.
Sur 120 candidatures, ils sont une quinzaine à avoir été retenus. Âgés de 18 à 30 ans, originaires de Kiribati, Fidji, des îles Salomon, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Polynésie, ou encore de Calédonie. Ces jeunes ont été sélectionnés sur la base d'un projet de lutte contre les maladies non transmissibles, des pathologies comme le diabète ou les cancers qui sont bien souvent évitables, tabagisme, pratique du sport ou alimentation. Les ambassadeurs auront la lourde tâche de tenter de changer les mauvaises habitudes au sein de leur communauté. En Nouvelle-Calédonie, 3 jeunes services civiques du secteur de la jeunesse et des sports à la province des îles ont choisi une méthode ludique pour faire de la prévention. Parmi elles, Antonia Gopfenepej, 19 ans, et origine originaire de l'IFOU.
Moi, personnellement, je ne savais pas que ça existait. Je ne savais même pas ce que c'était une maladie non transmissible. Alors, de savoir ce que c'est, ça serait bien pour nous de le partager aussi aux autres jeunes pour qu'ils puissent prendre connaissance de ce qui se passe ici dans notre pays. Alors, nous, on a proposé un escape game en plein air qui va se focaliser sur les trois facteurs de risque principaux là-bas à l'IFOU, qui sont l'alcool, le tabac et puis la mauvaise alimentation. Je pense que c'est plus divertissant pour les jeunes d'aujourd'hui. On a vu que les discours, les débats, ça les intéressait pas trop. Et que chez nous, là-bas, les fous, ils sont plus dans l'action. Voilà. On apprend beaucoup de choses et puis ça nous permet d'améliorer aussi notre projet.
Et ce projet d'ambassadeur existe depuis 2017 déjà. Il est porté par la communauté du Pacifique qui choisit une méthode participative en impliquant directement les jeunes des populations touchées par les MNT. Solène Bertrand travaille pour la division santé publique à la CPS. Elle est conseillère en maladies non transmissibles.
C'est pour toucher davantage les populations. Nous, en général, les services de santé, on ne peut pas être partout. Et je pense qu'il faut maintenant s'appuyer sur la ressource que sont la population, et notamment les jeunes. Les jeunes qui sont ici, après 4 jours, ils vont être extrêmement sensibilisés à ce que c'est que les maladies non transmissibles. Donc ce seront vraiment des ambassadeurs auprès de leur communauté pour faire passer les messages. Et ils ont des projets qu'ils vont porter. Ça va leur permettre de diffuser l'information comme une ambiance autour d'eux, de « Ok, là, on saisit, on prend les choses en main, on essaie d'avoir une meilleure attitude, on essaie de mieux manger, on fume moins, on va marcher. » Par exemple, hier, on les a emmenés tous marcher après la session au Wentoro. Et plusieurs ce matin m'ont dit « Ah mais oui, on va faire ça, nous aussi, on va encourager les gens de notre village à marcher au moins une fois par semaine, on va aller avec eux. » Voilà, c'est vraiment créer une dynamique auprès de leur communauté pour faire vivre ces thèmes de santé qui sont vraiment indispensables et qui sont au cœur de nos vies de tous les jours.
Dans le Pacifique, ce sont plus de 80% des personnes qui sont touchées par les maladies non transmissibles.
L'Indonésie transmet son savoir-faire aux Calédoniens. Une formation était organisée ces 3 derniers jours autour du bambou. Un artisan indonésien est venu spécialement sur le territoire pour partager ses techniques de travail de ce matériau plein de ressources, Charlotte.
Il peut être transformé en meubles, en bâtiments, en bijoux ou même manger. Les Indonésiens savent pleinement valoriser le bambou, un matériau durable et naturel. Et ils ont choisi de partager leurs connaissances avec les Calédoniens. Le consulat général d'Indonésie a organisé avec la société 4 Chemins, qui est un regroupement de plusieurs tribus du Sud, ces 3 jours de formation. Aujourd'hui, les participants ont appris à construire une table sous la supervision d'un formateur indonésien avec pour seul matériau du bambou et de la corde.
Non, on a appris là 3 jours de stage avec le formateur Enrique.
C'est une table, un petit tabouret, une table basse. Voilà, c'est une table basse, tout en bambou.
Sans clou ni vis. Alors elle est faite comment s'il n'y a pas de clou ni vis?
En fait, c'est percé avec les bambous. On taille des petits vis en bois, en bambou, pour joindre 2 bambous, par exemple celui-là et celui-là. Et puis après, on met de la colle pour renforcer et puis les attaches. Après ça c'est une base et puis on peut continuer sur un banc, un lit, parce qu'on a la ressource disponible chez nous.
Une formation qui entre dans un projet plus global de partage de compétences entre les 2 territoires du Pacifique, comme l'explique Mohamed Ridla Al-Farouki, collaborateur du consulat général d'Indonésie.
Pourquoi bambou ? Parce qu'on voit beaucoup les ressources naturelles comme bambou en Nouvelle-Calédonie. Et les Indonésiens, depuis longtemps, ils ont déjà utilisé ou profité bien le bambou pour transformer comme un outil, comme un immeuble ou un autre objet plus valorisé. Et donc, le consulat général d'Indonésie souhaite qu'en Nouvelle-Calédonie, les gens peuvent profiter les bambous. C'est pour renforcer la relation entre l'Indonésie et la Nouvelle-Calédonie.
La formation de 3 jours s'est terminée cet après-midi au Centre culturel Cibaou. Les 15 participants se sont vus remettre un certificat d'initiation.
Il est 18h passé de 9 minutes, une dernière page publicitaire avant de voir tout le sport.
Chers amis golfeurs, la dernière qualification pour la finale de la Somme Bay World Cup Nouvelle-Calédonie se tiendra au golf de la Wengi ce samedi 21 juin en formule Stableford. Alors ne manquez pas cette dernière opportunité et inscrivez-vous par mail à golf.wengi@lagoon.nc.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB. Première radio d'information.
La suite du journal et c'est du sport, Michael Genesky.
Et à la une de l'actualité sportive, de la voile évidemment, avec la New Caledonia Groupama Race. Édition particulièrement difficile cette année. Déjà 6 abandons sur les 23 navires qui étaient au départ ce dimanche. Ce soir, si les conditions restent les mêmes et sauf nouvel incident, les Néo-Zélandais de V5 devraient être les premiers à franchir la ligne d'arrivée. En attendant bien sûr par la suite le calcul des différentes compensations et la prise en compte des handicaps pour savoir à qui sera attribuée la victoire finale. Je rappelle que le catamaran australien Romans s'est dérouté pour porter assistance aux naufragés de Rush Hour hier. Leur temps de retard sur la course devra être pris en compte. On a également droit à une très belle bataille entre quatre Calédoniens. BNC MyNet de Michel Quintin, Pulpito MLS FCD de David Tréguier, Guilty Pleasure Speed Marine Epuro d'Alexandre Ruiz et Young Guns Gun Sainte Marie de Patrick Baldi. Ce dernier skipper évoque les conditions de course musclées depuis le début.
C'est un peu dur pour nous. On n'a pas pu creuser le trou en partant sur la côte Est comme on l'espérait, du fait qu'on a perdu notre principal spi à La Havana. Et du coup, on se retrouve dans une position où c'est difficile pour nous de nous battre parce que il y a une mer assez formée, assez dure pour un petit bateau comme nous. Et les Sydney vont légèrement plus vite auprès dans ces conditions-là. Donc on fait tout ce qu'on peut. On attend, on a de l'espoir que ça bascule à l'est ce soir, ce qui nous donnerait peut-être une petite chance de recoller. On prie pour que ça s'améliore. En attendant, c'est boom, crash, bang à l'intérieur du bateau. Tout va bien à bord, tout le monde est en pleine forme et on est content d'être là.
Patrick Baldi, le skipper de Young Guns Gun Sainte-Marie. Nous en sommes désormais à 3 jours, quasiment 8 heures de course sur cette New Caledonia Groupama Race 2025. La suite des championnats de France de natation avec ce matin des Calédoniens qui étaient encore engagés. Alexandre Ganet s'est classé 5e de la finale C du 50 mètres brasse. John-William Dabin a lui fini 4e de la finale C du 200 mètres 4 nages. À venir ce soir, le 200 mètres d'eau, 50 mètres brasse et 50 mètres papillon féminin. Et surtout chez les messieurs, le 200 mètres brasse, le 50 mètres nage libre et le 1500 mètres. Maxime Grousset, on le rappelle, hein, qui sera engagé sur le 50 mètres nage libre, a déjà remporté 2 titres de champion de France dans la compétition sur 50 mètres papillon et 100 mètres nage libre. Cette dernière distance où un autre espoir calédonien, Ethan Duménil, s'est particulièrement distingué puisqu'il a fini 4e à tout juste 19 ans. Et puis un petit mot de tennis pour terminer. Retour à Nouméa, hein, le deuxième tournoi ITF Junior qui se dispute pour les 13-18 ans. Il y a encore un Calédonien en lice chez les garçons, Zach Genoudet, qui a battu aujourd'hui l'Australien Om Kumaran Chinaswamy 6-2-6-4. Le Calédonien qui sera opposé demain au Japonais Daisuke Hashimoto sur les courts du Wentoro. 18h passées de 13 minutes, l'heure de voir la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Les détails de cette météo, c'est avec vous Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Michael. Alors cette nuit, les nuages élevés s'épaissiront et le ciel deviendra partout très nuageux à couvert. Le vent d'est soufflera de 15 à 20 nœuds, localement proche de 10 nœuds sur l'ouest. En seconde partie de nuit, une brusque accélération du vent se produira sur la façade de l'ouest, où les rafales atteindront 40 nœuds. En fin de nuit, une bande de vent fort se décalera sur les Loyautés en s'atténuant légèrement. Les températures minimales s'échelonneront de 19 à 23 degrés en général, et localement jusqu'à 16 degrés sur l'ouest. Demain matin, de belles éclaircies feront progressivement leur apparition sur l'ouest. Sur les autres régions, le ciel restera très nuageux à couvert et souvent pluvieux. Le vent d'est-nord-est faiblira entre 10 et 15 nœuds, localement encore 15 à 20 nœuds, vers Marais et l'île des Pins, Michael.
Merci beaucoup Nicolas.